Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Il est devenu un sujet d'actualité, une nécessité, un élément incontournable. Vous avez sûrement entendu parler des ODD, Objectifs de Développement Durable. D'ailleurs, 193 pays se sont fixés d'atteindre 17 objectifs d'ici 2030. Sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc est sur cette dynamique à la fois environnementale et économique. Notion qui définit le besoin de transition et de changement dont a besoin notre planète et ses habitants pour vivre dans un monde plus équitable, en bonne santé et en respectant l'environnement. Quel impact géopolitique, stratégique, économique et même social le développement durable a sur notre quotidien et sur l'évolution du monde.
Mehdi 1, Ababacar Tonkara. Le podcast de la durabilité.
Le développement durable est habituellement défini comme un développement économique social susceptible de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux, bien entendu, aux besoins actuels. Ces objectifs qui découlent de cette formulation visent bien évidemment à améliorer les conditions de vie tout en préservant les ressources et l'environnement. En particulier, l'objectif d'une équité entre les générations renouvelle aussi la question de l'équité tout court entre donc les populations et cette dernière qui remet au premier plan la question des conditions de vie par rapport aux préoccupations de la préservation de l'environnement. Aucune de ces questions d'ailleurs ne devrait par ailleurs être pensée d'un point de vue statistique. Le monde connaît de plus en plus et depuis des siècles une croissance sans précédent de sa population dont les conséquences sont déterminantes pour un développement durable. Et pour mieux cerner bien évidemment l'importance de la durabilité sur le plan socio-économique, nous recevons Madame Maya Demnati, spécialisée également dans plusieurs domaines, notamment de manière beaucoup plus spécifique dans le cadre commercial mondial et partenariat stratégique. Bienvenue et merci de répondre à notre invitation.
Merci à vous, Monsieur Tonkara.
Alors, bonjour. Également. Alors, sans plus tarder, comment percevez-vous le rapport développement durable et société?
Eh bien, je pense que le développement durable et la société sont fortement liés et ont un rapport complexe, puisque la société représente les individus, les communautés, les organisations, les institutions, et est à la fois donc agent et bénéficiaire. Donc l'organisation est caractérisée par des interactions qui sont mutuellement influentes, on peut dire. Voilà, donc je pense que c'est sur le plan social, la justice sociale, l'équité et le bien-être des populations qu'on veut promouvoir ensemble. Il s'agit donc d'assurer l'accès aux besoins fondamentaux pour tous, comme la santé, l'éducation, les conditions de travail et le logement. La société joue alors un rôle central dans la réalisation du développement durable. Mmh. Et pour finir, je pense que tous les citoyens, entreprises, ONG et gouvernements doivent collaborer pour favoriser des pratiques durables à tous les niveaux de la société.
Et dans cette même optique, alors, la durabilité est-elle seulement environnementale?
Eh bien, non, elle n'est pas seulement environnementale, comme on vient de le mentionner, elle est aussi sociale et économique. Le développement durable impacte tous les domaines. On peut donner quelques exemples et se poser la question comment faire en sorte que le développement industriel soit source de progrès pour tous. Par exemple, en améliorant l'outil industriel pour consommer moins d'énergie et moins d'eau. Et donc là, on répond à ces dimensions qui sont aussi économiques. Ou alors être à l'écoute des salariés. Et là, on répond aux dimensions sociales. Donc un salarié satisfait travaillera mieux et donc il y aura aussi cette composante économique. Donc voilà, ou encore avec l'emballage. Si on a moins d'emballage, le transport sera plus léger et donc moins coûteux. Donc toutes ces dimensions donc sociales, économiques et vont donc de pair avec l'environnement
et
dans le développement durable.
Tout à fait. Et également, ce qui est intéressant, c'est aussi par rapport à ce que vous venez de dire, peut-on également voir une relation entre le nombre d'habitants d'une collectivité territoriale et les possibilités également de satisfaire les trois piliers du développement durable que sont l'environnement, l'économie et également le cadre social?
Ah oui, tout à fait. Je pense que la manière dont une collectivité territoriale gère sa croissance démocratique, démographique, et met en œuvre des politiques et des programmes de développement peut avoir un impact significatif sur sa capacité à satisfaire les trois piliers. Prenons l'exemple de l'efficacité de planification urbaine, donc la mobilité, ou encore la politique environnementale qui sera mise en place pour le recyclage, pour une population plus dense, par exemple. Il y a aussi une économie diversifiée qui sera donc le cas pour des grandes population. Alors, tout cela peut contribuer à créer des collectivités territoriales plus durables, quel que soit le nombre d'habitants.
On parle également d'objectifs de développement durable, mais la population est-elle véritablement impliquée, selon vous, dans ce processus ?
Oui, bien sûr. Idéalement, on va dire que oui, parce que d'après tout ce que nous venons donc d'échanger, ça serait le cas, mais dans la pratique, à mon sens, c'est bien plus compliqué. Mais limitons-nous à quelques exemples positifs. Nous partageons la même planète. Et donc, inspirons-nous de processus qui montrent que c'est possible. À mon avis, l'implication de la population dans le processus des ODD est indispensable pour réussir à atteindre les 17 objectifs. Je voudrais citer l'exemple de cette petite île dans la mer Baltique, Samsø, au Danemark. C'est un lieu clé de la réussite de la révolution énergétique, et spécialement dans l'Académie de l'énergie. Parce que là, par exemple, ce sont les citoyens, ensemble avec les experts, qui se sont réunis pour élaborer donc un plan de direction et donc dans la transition d'énergie verte pour cette petite île. Alors, prenons l'exemple de l'emplacement des éoliennes qui se fait en coopération avec donc les citoyens sont, si on veut, copropriétaires. C'est une propriété collective. Donc, on est bien plus intéressé quand on fait partie du projet. On est très investi et puis intéressé aussi aux revenus. Alors, on se sent fier de faire partie du projet. Donc, je pense que ça, c'est une dimension très, très importante, l'engagement donc de la population dans ce processus.
Et selon vous également...
Il y a aussi, par
allez-y.
Exemple...
Oui, allez-y, c'est impertinent, allez-y.
Ah bon, je ne voulais pas.
Allez-y, c'est impertinent.
Non, je voulais juste donner un autre exemple.
Oui, allez-y.
Par exemple, dans cette même île, on utilise la paille pour se chauffer, comme on a installé une petite centrale thermique qui assure un chauffage collectif plutôt qu'un fuel à poêle individuel. Et donc, ce succès de transition énergétique, je veux bien, dans une petite île de 4000 habitants, et là, je reviens sur votre question antérieure, c'est seulement une petite île, donc ce n'est pas forcément un modèle de réussite transposable partout, mais ça reste une source d'inspiration. Et je pense que les exemples positifs peuvent donc nous inspirer et nous démontrer que c'est possible d'intégrer donc... la population dans ce processus.
Et selon vous, Madame Demnati, comment les pays africains doivent-ils mettre l'accent sur une meilleure prise de conscience sociale des enjeux de cette durabilité ?
Alors, je pense qu'on pourrait gagner une meilleure prise de conscience sociale des enjeux avec beaucoup de persévérance. Et là, j'aimerais citer 5 domaines clés, mais peut-être avant de les citer, un petit exemple, étant un des premiers pays à avoir interdit le plastique depuis 2008, donc les sacs en plastique. Et puis ensuite, en 2019, même les objets jetables à usage unique, donc comme les gobelets ou les bouteilles. Et je parle bien du Rwanda, car il faut savoir qu'au Rwanda, vendre un sac en plastique est passible de prison. Donc cette mission zéro tolérance a été introduite par le ministère de l'Environnement et qui a donc publié une analyse sur les impacts qui sont donc multiples sur l'environnement, la santé, entre autres. Alors pour résumer, on a instruit la population. On a proposé des alternatives durables en informant sur les avantages environnementaux. Et puis du côté de l'industrie, je pense que les producteurs sont rendus responsables du cycle de vie des produits plastiques, par exemple. Et on a donc élaboré un cadre juridique avec un suivi strict d'inspection. Mmh. Alors, et tout ça a donc conduit à pouvoir atteindre une propreté incroyable. Donc, c'est encore une fois que ça attire beaucoup de touristes. Donc, et 40 pays africains se sont d'ailleurs inspirés de ce modèle. Mais bon, les 5 secteurs essentiels, pour résumer, et répondre à votre question, serait donc en premier lieu, je pense, l'éducation. Mmh. Je pense qu'il est absolument nécessaire d'intégrer dans les programmes éducatifs, par exemple dans les écoles, mais aussi dans les communautés, dans les médias, dans les industries, les valeurs de respect de l'environnement et puis de sensibiliser l'impact de la pollution. Mmh. Ensuite, la communication, c'est aussi de mener des campagnes de sensibilisation à grande échelle et informer la société sur ses actions à entreprendre pour y remédier. Et donc ça à travers les canaux possibles, les réseaux sociaux, les médias, les affichages publics. Mmh. Et en troisième lieu, je pense que l'engagement de la communauté est extrêmement important. Et donc, si on peut impliquer activement les communautés locales, comme on le fait par exemple, puisque l'été approche dans les plages, pour avoir des plages propres, mmh. eh bien, c'est formidable. Ensuite, le cadre juridique est évidemment aussi, comme on l'a mentionné tout à l'heure, très important. Donc, il s'agit d'introduire et d'adopter, de faire respecter d'ailleurs aussi ces nouvelles lois. Mmh. Et je voudrais finir avec donc le secteur industriel où là aussi il s'agit de promouvoir des alternatives durables, de stimuler l'économie locale et d'encourager à réinventer ou à utiliser d'autres emballages par exemple et à démontrer qu'il y a aussi là-dedans une opportunité économique. Et tout ça, je pense qu'il est extrêmement important encore de souligner que c'est en collaboration et que tous les acteurs doivent donc participer. Et j'aimerais terminer avec un proverbe africain. Si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marchons ensemble.
Et pour cette raison que nous marchons ensemble avec vous, Maya Demnati, dans bien entendu la question de la durabilité, mais aussi dans le cadre économique et social. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que donc vous êtes aujourd'hui spécialisé dans tout ce qui est développement commercial mondial, mais également dans le partenariat stratégique, mais aussi vous êtes une experte, entre guillemets, même si vous ne voulez pas, dans le domaine du développement durable à votre manière. Merci encore à vous, Maya Demnati.
Merci beaucoup, merci.
Merci encore à vous, chers amis de l'émission La Durabilité et toujours dans la durabilité de la confiance renouvelée que vous nous accordez. On se donne rendez-vous pour son prochain numéro.